mardi 22 janvier, le journal de la mi-journée présenté par Anne-Laure Guffroy. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Nous reviendrons au début de journal sur Gary, cette tempête tropicale qui se dirige vers la Polynésie et elle pourrait se transformer rapidement en cyclone. Nous entendrons les précisions de Mario Nouveau, le chef de la division communication de Météo France en Polynésie. La semaine du Monoï, c'est fini. Une mesure prise par le groupement interprofessionnel du Monoï de Tahiti qui fait face à une grosse diminution de son budget. On en parle avec Eric Vaxeler, le directeur de l'Institut du Monoï. Et puis, le thon rouge du Pacifique est-il menacé d'extinction? C'est la question que nous avons posée à Temahori Foster, le ministre des Ressources Marines, suite à une récente publication du Comité Scientifique International. On en parle en deuxième partie de journal.
Alors, Gary pourrait donc se transformer en cyclone.
On ne saura que cet après-midi si la tempête tropicale Gary s'est transformée ou non en cyclone cette nuit. Pour l'instant, la Polynésie ne fait toujours pas l'objet d'une alerte cyclonique et les derniers relevés qui datent d'hier après-midi situaient Gary à 2300 km à l'ouest de Tahiti. Alors, y a-t-il réellement un risque que cette tempête tropicale se transforme en cyclone? Écoutez la réponse de Mario Nouveau, le chef de la division communication de Météo France en Polynésie.
Elle a peut-être déjà évolué en cyclone, hein. Les chances d'évoluer en cyclone, oui, puisqu'elle a des conditions favorables. Donc, elle se dévolue en cyclone dans les 48 ou 72 heures à venir.
Et c'est quoi ces conditions?
Une mer très chaude, beaucoup d'humidité dans les basses couches et un courant en altitude favorable à la formation des nuages et voilà. Et puis ça, la machine thermique se met en place et le phénomène se renforce.
Météo France fera un point de situation à 14h cet après-midi pour connaître l'évolution du phénomène. S'il y a bien un risque que celui-ci se transforme en cyclone et qu'il atteigne la Polynésie, ce ne sera pas avant jeudi.
Nous, ce qu'on fait, c'est de suivre jour par jour. Là, actuellement, nous disposons des modèles d'hier 14h. Cet après-midi, on disposera des modèles de 2h du matin, c'est la nuit dernière. Et à ce moment, on recale la trajectoire du cyclone. Mais, ce qui est certain, avec nos modes opératoires, avec le commissariat, on commence à lancer des avis de mise en garde quand une île de la Polynésie française est menacée dans les 72 heures, c'est-à-dire dans les 3 jours. Puisque l'erreur d'une trajectoire sur 24 heures est de 150 km, sur 3 jours est de 300 km. Si cet après-midi-là, s'il y a une île dans les 3 jours qui viendront, donc ça veut dire quoi? Si jeudi, il y a une île qui était menacée, on lancerait une mise en garde cet après-midi pour l'île en question. S'il n'y a aucune île menacée, il n'y aura aucun message spécial, c'est-à-dire aucune mise en garde pour une de nos îles.
Et nous vous tiendrons bien entendu informés de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions.
Jeanville-Pomarais s'oppose au projet de Gertec.
Selon le leader du Conseil coutumier autochtone, le gouvernement s'orienterait vers la création d'un groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété, un établissement public du même genre que celui qui existe en Corse, et ceci afin de régler les problèmes du foncier en Polynésie et surtout désengorger les tribunaux. Une solution évoquée lors de la rentrée solennelle par le président du tribunal de première instance et qui semblerait avoir les faveurs du gouvernement, d'après Jeanville Pomarais, qui ne comprend pas qu'un parti indépendantiste puisse s'aligner sur ce choix. On l'écoute.
Je vois aujourd'hui que le gouvernement indépendantiste du pouvoir veut mettre en place un GPEC. Moi, ce que je trouve aberrant dans ce pays, c'est que des lois, des textes existent. Et même une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, garantissant nos droits de propriété, nos titres de propriété, sont aujourd'hui bafoués par ceux-mêmes qui prônent l'indépendance de ce pays. Ils n'avons plus rien. Tout aujourd'hui est du copier-coller de ce que l'État français fait ou ce que les autres sont en train de faire. Et on continue encore aujourd'hui à bidouiller des textes de loi qui existent, des lois et coutumes que l'État français a signées pour garantir nos droits. Moi, je suis aujourd'hui vis-à-vis de ce gouvernement qui dit n'importe quoi. Aujourd'hui, ça n'a plus quoi faire. Un coup, ils sont pour l'indépendance, un coup, ils sont pour la décolonisation. Mais quand on regarde bien, c'est une recolonisation de notre pays par rapport à ce qui touche le plus le Polynésien et le Tahitien, c'est sa terre. Demain, qu'est-ce qui va lui rester dans tout ce qui se trame derrière son dos?
Pour Jeanville-Pomarais, cette décision du gouvernement démontre, je cite, leur incapacité de trouver des solutions autochtones aux problèmes fonciers. Solution qui pourrait, selon lui, passer par la mise en place d'un tribunal foncier notamment.
Faute de moyens, la semaine du Monoï est annulée.
Le GIMT, le groupement interprofessionnel du Monoï de Tahiti, a décidé de ne pas reconduire cet événement annuel programmé au mois de novembre. Cette décision fait suite au vote de la loi du pays portant sur diverses mesures fiscales à l'exportation. Le GIMT a ainsi perdu 25% de son budget, soit une diminution d'environ 10 millions de francs. Des mesures ont dû être prises par les entreprises locales et elles ont choisi de réduire leurs investissements promotionnels et notamment de supprimer la semaine du Monoï, un événement créé en 2007. Eric Baxeler, le directeur de l'Institut du Monoï, revient sur ce rendez-vous annuel qui ne connaîtra pas de 7e édition.
La semaine du Monoï, c'était un rendez-vous agréable, incontournable, qui au niveau de l'industrie pour nous c'était important. Donc déjà, il y avait des entreprises qui comptent dessus, des gens d'artisans, des mamas qui nous archipèlent. Il y a des gens qui venaient acheter, donc ça veut dire qu'il y aura une perte de chiffre d'affaires des entreprises ou des artisans qui vendaient. On arrête également toute la promotion, même de communication. On avait des panneaux de publicité à l'aéroport, on les a arrêtés. Tout ça, c'est une perte dans l'économie polynésienne, mais les entreprises n'avaient pas le choix. Elles ont coupé, dans le budget, parce qu'on leur a retiré 25%, c'est plus de 10 millions. Sur ça, il fallait trouver un équilibre entre la partie internationale et la partie locale.
Des propos recueillis par Jennifer Hoffes.
Est-ce que le thon rouge du Pacifique est menacé d'extinction?
Une récente publication du Comité scientifique international sur le thon révèle que 96% des thons rouges du Pacifique Nord ont disparu durant les dernières décennies. En cause, la pêche intensive menée par le Japon, le Mexique, la Corée du Sud et les États-Unis. Et qui dit raréfaction du thon dit hausse de son prix de vente. Le 5 janvier, un thon rouge de 222 kilos a été vendu 1,76 million de dollars sur le marché de Tokyo, soit plus de 157 millions de francs. Mais selon Temaori Foster, le ministre des Ressources marines, le thon polynésien ne serait pas en danger. On l'écoute.
Je dirais qu'en Polynésie, nous avons de la ressource et nous avons encore une marge de manœuvre que nous n'avons pas d'ailleurs atteint, puisque le niveau de pêche qui est préconisé est de l'ordre de 14 000 tonnes par an et nos thoniers ne capturent qu'environ 6 000 tonnes. Mais 6 000 tonnes qui regroupent en fait 75% de thon, mais du thon blanc. Non, pas de thon rouge. Donc on a encore quand même une marge intéressante ici en Polynésie.
Et le ministre reproche aux grands pays pêcheurs de ne pas réduire leur flottille, notamment celle usant la pêche à la senne. Cette technique de pêche au filet serait particulièrement destructrice car elle capture toutes les espèces confondues en quantité industrielle. Une technique qui n'est pas utilisée par nos pêcheurs. De plus, selon le ministre, la Polynésie serait protégée car aucun accord de pêche n'est établi avec des pays étrangers.
Les grands balais de Tahiti Ora mettent le feu au casino de Paris.
On vous en parlait la semaine dernière. Tahiti Ora est actuellement en tournée en métropole. 37 danseurs, danseuses et musiciens ont pris possession ce week-end du Casino de Paris, cette mythique scène parisienne, pour y présenter la dernière création de la troupe. Un spectacle envoûtant au rythme d'un peuple fier et puissant du Pacifique Sud avec des costumes végétaux flamboyants. Ce show haut en couleur a conquis le public parisien. Le reportage de notre correspondant sur place, Kéléto Nofou.
L'hiver s'est installé à Paris, sauf 16 rue de Clichy. Le casino de Paris s'est enflammé au son des toélés et des ukulélés. Environ 1500 personnes ont bravé la neige pour cette représentation samedi soir. Certains sont venus de très loin, de Picardie.
Ah, c'était super bien, ça donne de la fraîcheur.
Ça dépayse énormément et ça nous évoque les danses du Pacifique.
Quand même, avec la danse, ça permet de voir un petit peu le scénario et tout. Bon, on entend un petit peu l'histoire, ça. Ouais, ça se tient quoi.
Les ballets sont très bien réglés. Les costumes sont magnifiques.
Les danseurs sont...
Les danseurs et les danseuses sont magnifiques.
Ouais, ils sont musclés, ils sont beaux aussi.
C'est assez émouvant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, j'adore quoi.
C'est magnifique, ça donne envie d'y aller.
Le public leur a offert un stand innovation et des rappels, d'autant que les grands ballets de Tahiti Ora poursuivent leur tournée en métropole jusqu'au 3 février. Paris, Kéléto Nofou pour Radio One.
Et rappelons que la légende Marukoa, le spectacle présenté par Tahiti Ora, est le spectacle vainqueur du AIVA 2011 et avait remporté de nombreux prix.